Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi.
Le journal avec Jérôme Florin. Bonjour Jérôme.
Bonjour Yves, bonjour à tous.
À la une, 5 ans après les attentats, l'équipe de Charlie Hebdo toujours menacée.
La DRH du journal a même été forcée de quitter précipitamment son domicile, son témoignage dès le début de ce journal. Dans l'actualité également, les grands gagnants de l'été, Covidés, les Français ont sauvé le tourisme dans le Var, notamment l'enthousiasme de ce restaurateur.
Les taux d'occupation des hôtels, la restauration, les bars, les plages, tout a très bien fonctionné. C'est incroyable.
Et puis le dopage dans le cyclisme, c'est reparti pour un tour après la découverte de produits suspects dans l'entourage du Colombien Nairo Quintana.
Jusqu'à 9h30, RTL Matin.
Quand vous êtes penseur militant sur la liberté d'expression, sur la laïcité, ça vous vaut de telles choses que vous êtes sous protection policière.
Marika Brett, c'est la DRH de Charlie Hebdo. Ses propos remontent au 10 septembre dernier lorsqu'elle était venue témoigner au procès encadré par ses agents de sécurité. Elle avait raconté ce climat étouffant 5 ans après les attentats.
Quelle alerte, mais quelle alerte en 2020. Il y a une haine, mais une haine contre ce journal qui a à vivre au quotidien et parfois épuisante.
Et depuis, Marie Cabret, on l'a appris hier soir, a été exfiltrée de son propre domicile après avoir reçu des menaces de mort. Elle a eu 10 minutes, 10 minutes, montre en main, pour faire ses valises. Elle est aujourd'hui réfugiée chez des amis. Bonjour Julien Fautrin.
Bonjour.
Elle a tenu à rendre elle-même l'information publique pour alerter, dit-elle, sur le désastre en cours. L'esprit Charlie, comme on dit, il a un prix et il est lourd.
Oui, Marie Cabret vit depuis 5 ans, depuis les attentats de Charlie Hebdo, sous protection policière. L'adresse des locaux du journal est secrète. Il y a des sas de sécurité partout. Des agents armés. Elle témoigne chez nos confrères du Point. Je perds mon domicile à cause des déferlements de haine. Des menaces jugées suffisamment crédibles, concrètes, sérieuses par la police qui a estimé que la responsable des ressources humaines de Charlie Hebdo ne pouvait plus rester dans son appartement 10 minutes, pas une de plus, pour qu'elle tire un trait sur sa vie, prendre quelques affaires, fermer la porte à clé. Exfiltrée, elle ne rentrera sûrement jamais chez elle. C'est très violent, explique-t-elle aujourd'hui. Marie Cabret, qui évoque des tensions autour du journal en plein procès sur les attentats de 2015. Nous avons reçu toutes sortes d'horreurs, des menaces de la part d'Al-Qaïda. Un niveau de haine hallucinant, constate-t-elle autour de Charlie Hebdo.
À propos dans le journal Le Point, merci beaucoup Julien Fautrin. Je me tourne vers vous, Cindy Hubert, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui aviez recueilli ces propos qu'on a entendus au début de ce journal. Vous suivez ce procès Charlie. Ces menaces, elles ne visent pas que la DRH du journal.
Non, les journalistes ont toujours à l'esprit que quelqu'un peut venir finir le travail des frères Kouachi et cela pèse lourd ici sur le procès. Il y a des policiers campés partout et les Charlie sont un peu comme des ombres. On les voit apparaître quelques secondes puis disparaître derrière une porte dérobée, toujours entourés par des gardes du corps aux aguets. Fabrice Nicolino, gravement blessé pendant l'attentat, a d'ailleurs tenu à raconter cette vie en état de siège. Depuis 2015, personne ne connaît l'adresse du journal. Il faut traverser une cour. Les policiers se figent à chaque fois et lèvent leurs armes vers les fenêtres en face. Il y a des portes, d'autres portes, des sas, une panic room, grimace le journaliste. Et là, enfin, vous êtes arrivé, alors il faut s'asseoir à une table et se marrer parce que Charlie Hebdo est un journal rigolo.
Merci beaucoup Cindy Hubert. La liberté de la presse est décidément un combat. M6 interdit de diffusion en Algérie après un numéro d'enquête exclusive consacré au mouvement de protestation populaire intitulé « L'Algérie, le pays de toutes les révoltes ». Le ministère de la Culture dénonce un documentaire biaisé. Précision, l'Algérie figure à la 146e place du classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières.
RTL, 8h04. En France, les professionnels du tourisme peuvent dire merci aux Français.
Le tourisme bleu-blanc-rouge a sauvé la saison estivale. L'Hexagone, privé de son habituelle clientèle étrangère pour cause de Covid, s'en sort un peu mieux que certains de ses voisins. 23% de touristes français en plus, en PACA par rapport à l'an dernier. Et dans la région, c'est le Var qui s'en sort le mieux, à Bandol notamment. Vous l'avez remarqué, Étienne Baudu.
Ah, eh bien écoutez, aux touristes français, les commerçants de la promenade du bord de mer leur disent un grand merci. Les affaires ont été florissantes dans tous les secteurs. Jean-Pierre Giribelli tient un restaurant. Il est aussi le patron de l'Union départementale des métiers et des industries de l'hôtellerie. Il est absolument enthousiaste.
Je qualifierais cette année de la saison du troisième millénaire. C'est incroyable. Les chiffres d'affaires ont évolué entre 25 et 40%. Les taux d'occupation des hôtels, la restauration, les bars, les plages, tout a très très bien fonctionné.
Et en cette mi-septembre, les touristes sont encore là. D'habitude, ce sont en majorité des retraités belges, allemands, anglais ou suisses. Mais comme cet été, ils ont été remplacés par des Français. Isabelle vient de Lyon, elle a loué ici un appartement.
D'habitude, on part en principe une semaine en club avec mon mari à l'étranger, pas forcément très très loin, mais en Europe, dans les îles. Et là, on est resté là. Oui, contraint et forcé parce que j'avais très peur d'avoir une annulation au dernier moment. Donc là, c'était une valeur sûre avec le soleil et des très beaux paysages aussi en même temps. Donc c'est vraiment super chouette.
Et les commerçants espèrent que cette clientèle qui partait de préférence vers l'Italie et surtout l'Espagne aura découvert ces lieux de vacances et aura même l'envie de revenir cet hiver si la météo le permet.
Reportage signé Étienne Baudu. L'Italie qui impose désormais aux Français en provenance des régions les plus touchées par le virus comme l'Île-de-France et Provence-Alpes-Côte d'Azur un test négatif 72 heures avant l'entrée sur le territoire. Le taux de positivité qui poursuit sa progression en France pour le troisième jour d'affilée. À Lyon, les visites dans les EHPAD sont limitées. Emmanuel Macron visitera d'ailleurs un EHPAD du Loir-et-Cher à Bracieux aujourd'hui pour saluer la mobilisation des personnels.
Dans un instant, ces mystérieux drones qui survolent les élevages de chevaux.
Maintenant, il faut même surveiller le ciel puisqu'il y a des drones qui circulent. Il y en a eu sur la commune, il y en a eu sur Benne, donc qui n'est pas loin.
8h06, restez avec nous, la suite du journal dans un instant.
RTL Matin.
8h08, la suite du journal de Jérôme Florin. Encore un poney retrouvé mort cette fois dans le département du Tarn.
L'animal a été abattu par arme à feu. Un nouveau drame pour les propriétaires d'équidés et une énième enquête ouverte pour mutilation. Ça fait des mois que ça dure. Les gendarmes multiplient un peu partout les campagnes de prévention et les rondes de nuit. Dans les Yvelines, 4 chevaux ont été tués depuis avril. RTL en immersion avec vous, Alice Moreno.
Oui, le véhicule de patrouille s'engage à faible allure sur un étroit chemin de terre. Au volant, la gendarme Marie Malfay scrute les champs environnants à la recherche de voitures suspectes.
Principalement les véhicules qu'on n'a pas l'habitude de voir, des véhicules qui peuvent être stationnés ou aux abords des prés avec des chevaux, plutôt des prés aussi isolés.
On est devant un pré où il y a 2 chevaux qui sont un peu isolés.
Oui, donc nous, qu'est-ce qu'on surveille dans un pré qui est comme ça? L'attitude du cheval. On vérifie aussi l'état des clôtures.
Direction ensuite l'écurie la plus proche.
Comment ça va ?
Entre les boxes, les propriétaires installent péniblement des caméras de surveillance.
Bon, 5 jours par caméra installée, il y en a 4, on est dans 2 mois, quoi.
Alors justement, et ben parlons-en. Au niveau de la gendarmerie, on a ce qu'on appelle des référents sûreté qui viennent faire le tour de vos structures et vous conseiller sur l'installation des caméras.
À quelques kilomètres dans une clairière, une éleveuse veille sur ses chevaux.
Maintenant, il faut même surveiller le ciel puisqu'il y a des drones qui circulent. Il y en a eu sur la commune, il y en a eu sur Benne, donc qui est pas loin.
Ce n'est pas la première fois que des mystérieux drones sont signalés aux enquêteurs. Ces survols à proximité d'animaux pourraient servir de repérage. Dernier arrêt sur un vaste domaine où sont hébergés 75 équidés.
Je ne vous cache pas que si je voyais un de mes chevaux mutilés devant moi, je serais prête à être très très méchante. Dieu merci, je ne fais pas mes tours de ronde avec un fusil ni d'armes blanches, mais cela pourrait me traverser l'esprit.
Rappel à l'ordre immédiat des gendarmes.
On ne fait pas justice soi-même. On est là, on fait le 17, la gendarmerie intervient au plus vite.
Les patrouilles se relaient ainsi jour et nuit pour tenter de rassurer les 800 propriétaires de chevaux que compte le département.
RTL en immersion, signé Alice Moreno. 14 ans de prison pour un infirmier de l'hôpital américain de Neuilly, dans les Hauts-de-Seine. Il avait violé une patiente. Il avait déjà été condamné en 2012 pour des faits similaires dans un hôpital de Nanterre.
8h10, le Tour de France se rattrapait par ses démons.
On reparle de dopage depuis hier et cette enquête ouverte par le parquet de Marseille visant des membres de l'équipe bretonne de Nairo Quintana après une perquisition la semaine dernière dans un hôtel de Méribel. Plusieurs produits ont été retrouvés, notamment du sérum physiologique. L'ancien manager de l'équipe Cofidis, Éric Boyer, explique ce matin sur RTL en quoi ce produit peut être suspect.
Le sérum physiologique, il peut servir justement à masquer des produits dopants. Ou lorsqu'il y a un contrôle, si un coureur a pris beaucoup de PO, et bien avant que le contrôle soit réalisé, on peut s'injecter du sérum physiologique pour diluer le PO qui est dans le sang et du coup passer sous le radar du contrôle.
Éric Boyer, ex-manager de l'équipe Cofidis, invité ce matin de RTL, l'équipe de Nairo Quintana a rappelé qu'elle n'était pas visée directement par ces investigations et qu'elle se désolidariserait immédiatement en cas de dopage avéré. Puis en football, le match mouvementé PSG-OM qui s'était soldé par une victoire des Marseillais le 20 septembre dernier n'en finit pas de faire couler de l'encre. 5 joueurs avaient été exclus, il y avait eu de l'électricité dans l'air, notamment entre le gardien de l'OM, Alvaro González, et le parisien Neymar, le second accusant le premier d'insultes racistes. Problème, personne ne les a entendus. Les experts se passent depuis les images en boucle et on commencerait à y voir plus clair, Philippe Sansfourche.
Oui, des termes sans équivoque. Mierda di mono, merde de singe, identifié sans aucun doute, je cite, par les 3 experts brésiliens convoqués par TV Globo, média que l'on peut juger partisan, mais un autre spécialiste en lecture labiale, espagnol cette fois-ci, confirme les mêmes injures pour nos confrères du Parisien. Propos identifiés sur des images de la chaîne Téléfoot, pourtant longuement décortiquées en amont par le diffuseur. La Ligue va donc pouvoir s'appuyer sur de nouveaux éléments pour nourrir ce dossier placé en instruction. Le défenseur de l'OM risque 10 matchs de suspension. Il se prépare surtout des heures compliquées dans une ville, Marseille, où on ne transige pas avec la notion de racisme. Neymar, lui, n'est pas pour autant tiré d'affaire puisqu'il répond par des injures homophobes et pourrait lui aussi être convoqué par la commission de discipline.
Merci Philippe Sansfourche. Et donc Alvaro González, eh bien défenseur.
Nous sommes d'accord.
Et c'était Marseille.
Et c'était donc.